pas un pauvre oiseau blessé qu'on aurait ramassé avec son aile cassée. Je suis pas un agneau égaré, assoiffé, apeuré, qui bêlerait sans arrêt. Je suis un ouragan, une boule de feu, un boulet de canon, un dragon, un volcan. Et je mords qu'on me laisse pleurer une larme ou des trombes, errer, désespérer, souffler de tombe en tombe. Qu'on me laisse m'attendre, tourner soudain le dos, fermer ma porte à clé et tirer mon rideau. Je suis pas une petite fille polie, charmante et bien jolie, même avec Nathalie. Je suis pas un bébé, un poupon, capricieux polisson à qui faut son biberon. Je suis un porc épique, une lance en acier, une lame aiguisée, un cactus, un moustique. Et je mords qu'on me laisse rêver, même si c'est folie, qu'il peut se relever et revenir chez lui. Qu'on me laisse m'enivrer de vœux d'amour, de mort. J'ai besoin de virer quand la terre s'endort. Je suis pas prête à courir la terre, à changer d'atmosphère pour un peu me distraire. Je suis pas à bercer tendrement, cajoler un moment, à chercher un amant. Je suis un coup de poing qui part sans crier gare. Si ce n'est pour ce soir, ce sera pour demain. Et je mords qu'on me laisse mon deuil et traîner ma dégaine sans surveiller mon œil, ma révolte et ma haine. Qu'on me laisse mon idylle, mes secrets, mes trésors, mes souvenirs fragiles, mes silences et mes torts. Mes souvenirs fragiles, mes silences et mes
Radio Libertaire, 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste, et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme quasiment tous les mercredis matin de 9h30 à 10h30. Bienvenue, bonjour. Aujourd'hui, au sommaire de notre émission, on va parler de l'association La Plaine et on va entendre un son sur Arte Radio, le blog radio, audio, Think Insane, et l'association La Plaine qui a créé un lieu de vie à Bolbrun en Bretagne, eh bien, va nous parler un peu non pas tant de leur projet, mais de nous raconter, nous faire un panorama des critiques de la psychiatrie et de ses alternatives par la voix d'Alex, mais alors qu'est-ce que c'est la plaine ? Alors, en 2022, un groupe d'amis du pays de Redon s'est réuni pour créer l'association À Pleine Vie, P-L-A-I-N-E, Bretagne, aujourd'hui appelée La Plaine, dans le but de travailler la question de la santé mentale communautaire et de créer un lieu de répit. Les rencontres et événements publics organisés par l'association amènent le collectif à s'agrandir et se structurer progressivement. Un magnifique lieu à rénover, situé à Bolbrun, Guéméné-Penfao, est acheté par l'association en mai 2025. Le collectif de La Plaine est constitué d'un conseil d'administration collégial et de membres actifs participant aux événements et groupes de travail pour avancer avec une multiplicité de points de vue. L'association est attentive à réunir des membres ayant différentes approches de la souffrance psychique et notamment des personnes concernées, des aidants et des professionnels. À l'été 2025, les membres de la direction collégiale donc sont un certain nombre de personnes dont Alexandre Vaillant et Julie Sabatier, respectivement psychologue clinicien, coordinateur du conseil local de santé mentale du pays de Redon, formateur PSSM et cofondateur de La Trame, qui est une autre association qui est aussi en matière de santé mentale et qui se trouve à Saint-Denis dans le 93. Et Julie Sabatier, éducatrice spécialisée aux formatrices au premier secours en santé mentale, PSSM, cofondatrice de La Trame, lieu d'accueil et d'accompagnement pour les personnes en souffrance psychique. Alors, c'est Alexandre Vaillant qu'on va écouter maintenant à travers le son que je vous propose et qui va donc nous faire le panorama des critiques de la psychiatrie et de ses alternatives. Association La Plaine, Thinking Sane, Arte Radio.
L'entretien de Bolbrun, proposé par This is Insane. Il y a quelques semaines, l'association La Plaine est devenue propriétaire d'un lieu pour l'instant appelé Bolbrun, à Guémené, c'est la Bretagne. Trois bâtiments, un terrain magnifique, des scènes gigantesques et un étang. Pour l'instant, on se faufile entre les ronces, mais plus pour longtemps, car on s'installe. Bolbrun sera un lieu de vie et d'accueil pour faire face collectivement aux questions de souffrance et de santé mentale, par nos propres moyens. Pour célébrer celles et ceux qui le font, et l'énergie qui les porte, pour aller à leur rencontre et pour contribuer à la documentation de leur travail, je leur ai proposé cette série d'entretiens. Les deux premiers entretiens ont eu lieu avec Julie et Alex. Ils sont en couple et circulent depuis longtemps dans les réseaux de la psychothérapie institutionnelle. Les entretiens étaient denses, ils éclairent le cheminement qui a mené jusqu'à Bolbrun. Premier épisode, Alex, panorama des critiques de la psychiatrie et de ses alternatives.
Donc Alexandre Vaillant, 42 ans. J'ai grandi dans le pays nantais. J'ai fait mes études à Nantes, puis à Rennes, des études de psychologie. Donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la question de la psychiatrie, les études de psychologie, même de psychopathologie. À Nantes, c'était très freudien et à Rennes, c'était très lacanien. Et en parallèle de mes études, ce qui me prenait pas mal de temps, c'était la création d'un groupe de musique, enfin l'activité d'un groupe de musique qui s'appelle Justine, puisqu'on fait plus de concerts. Et ce groupe de musique était très influencé par toute la dynamique des labels punk indépendants français. Il y en avait un sur le pays nantais qui s'appelait Dialectic Records, avec un groupe un peu phare qui s'appelait les Zabriskie Point. Les Zab, dans leurs textes, parlaient pas mal de pas mal d'auteurs dont j'ignorais l'existence, dont Deleuze, Guattari. À côté de ça, j'avais un frangin de 2 ans mon aîné, Arnaud, qui était plutôt en activité sur la ZAD et qui faisait un mémoire sur Nietzsche. Donc, il me parlait de Deleuze aussi, donc ça m'a intrigué. Et j'ai profité de mes études pour comparer les systèmes théoriques de Lacan et de Deleuze et Guattari. Parce que c'est la même époque, c'est le même mouvement philosophique. L'émergence du structuralisme dans les années 50-60, Lacan était très influencé par ça, Deleuze et Guattari également. Et puis après, il y a eu des différences qui se sont installées avec l'écriture d'un bouquin qui avait fait parler de lui à l'époque, qui s'appelait l'Anti-Oedipe, qui est sorti en 72, qui était un peu une suite de mai, et qui était aussi une critique de la psychanalyse. De la psychanalyse freudienne et de la psychanalyse lacanienne. Et vu que moi, je me posais pas mal de questions vis-à-vis, pas forcément de la psychanalyse comme pratique, puisque je n'avais aucune expérience comme pratique, mais en tout cas comme théorie, de comparer Deleuze, Guattari et Lacan, ça m'a permis à la fois de comprendre ce mouvement-là des années 60-70, le structuralisme et le post-structuralisme, de m'ouvrir à plein de lectures différentes, et puis de découvrir la clinique de Laborde, où travaillait Guattari, puisqu'il en parlait dans ses bouquins. Et du coup, ça m'a donné envie d'aller faire mes premières expériences professionnelles dans cette clinique. Voilà. Et ça a orienté pas mal la suite de mon parcours, puisque du coup, de Laborde, on s'est fait des amis. Après, j'ai rencontré Julie. Et de Laborde, s'en est suivi tout un parcours professionnel. J'ai pas travaillé à Laborde, j'ai fait des remplacements d'été. Mais ils embauchaient pas, ou c'était difficile de se faire embaucher à l'époque. Et puis je savais pas si j'avais envie de travailler dans un lieu où l'essentiel de l'activité se passe sur le lieu.
Et tu cherches en opposition à quoi ?
En opposition à des pratiques en réseau ou des choses plus ouvertes. Bah, je pourrais en parler un petit peu avec ce qui s'est créé après à Saint-Denis, la trame. Tu vas chez les gens, tu vas rencontrer d'autres lieux, tu fais des choses en lien avec d'autres lieux, avec d'autres partenaires qui sont dans une extériorité. Donc, tu travailles la question des lieux, mais aussi la question des liens entre ces lieux et entre les personnes et entre la multiplicité des dispositifs qui peuvent exister sur un territoire donné, quoi.
Donc, ce que tu dis, c'est que c'est à la fois par tes études et par le mouvement punk que tu as abordé le sujet.
Oui. Ouais, on pourrait le dire comme ça. Moi, je ferais même une triptyque punk, études et réseaux amicaux et familiaux avec une influence quand même qui est celle de mon frère, de mon grand frère Arnaud, et qui faisait des études de philo et avec qui on avait pas mal d'échanges autour de ce qu'on pouvait penser de la vie, lui et moi. Ouais. Voilà, je dirais ça.
Ok. De quoi tu veux parler en premier ? De l'expérience du groupe punk, de cette relation avec Arnaud ?
Du parcours professionnel ? Ce que je trouverais intéressant avant d'en arriver à mon parcours professionnel, c'est l'image, en tout cas la représentation que je me suis faite de ce qu'était la psychiatrie et de ce qui n'était pas de la psychiatrie ou de ce qu'était l'antipsychiatrie. C'est-à-dire au moment où j'arrive à Laborde, et ben j'ai lu dans des bouquins, j'ai entendu parler, voilà.
Tu veux en dire une seconde, Laborde, ce que c'est
et... La clinique de Laborde.
Ouais.
La clinique de Laborde, c'est une clinique qui a été fondée dans l'après-guerre et qui appartient à tout un mouvement de transformation de la logique hospitalière après la Deuxième Guerre mondiale.
Qu'on appelle la
psychothérapie institutionnelle. Ouais, c'est le nom qui lui a été donné. Et comment dire, le mouvement d'après-guerre, en tout cas le mouvement de transformation des pratiques en psychiatrie, ne se réduit pas en France à la psychothérapie institutionnelle, puisqu'il y a plein de choses à côté. Alors on pourrait parler de petites différences parce que c'est des gens qui se connaissaient en fait. Il y a une expérience, enfin en tout cas quand les gens font un peu cette histoire-là, ils racontent souvent l'histoire de l'hôpital de Saint-Alban. On est pendant la Deuxième Guerre. On parle d'extermination douce. Les hôpitaux psychiatriques sont pas ravitaillés. Il faut assurer la survie. Et se crée là à Saint-Alban une rencontre entre plusieurs psychiatres, dont Tosquelles, Bonafé, Fanon est passé par là également, qui crée une pratique, mais pour le coup très ouverte, puisque quand ils en parlent, ils disent bah voilà, on est obligé de travailler avec les paysans à côté, on est obligé d'ouvrir l'hôpital par la force des choses, d'homogénéiser, en tout cas d'horizontaliser les relations entre soignants et soignés. Et on s'est aperçu que en participant collectivement à des nécessités de faire à manger, trouver à manger, vivre ensemble, bah les gens allaient beaucoup mieux, quoi.
Il y a une histoire aussi où à un moment ils ont décidé de casser les murs de l'hôpital. Non, il y avait pas d'anecdote de ce type.
Je sais plus s'il y a eu du cassage de murs à Saint-Alban, mais en tout cas le parcours de Tosquelles, il est fascinant puisque le mec arrivait de la Révolution espagnole, il fuit le franquisme, il était psychiatre sur le front.
Et ensuite il
est adhérent du POUM, c'était la branche anard de la révolution marxiste, quoi. Du coup, en conflit avec les staliniens, enfin, en tout cas, ceux qui s'alignaient sur Moscou, il y a un film de Ken Loach qui raconte très bien ça. London Freedom. quand tu vois que Toscaïès, il appartenait à cette histoire-là et qu'il débarque avec aussi tout un tas d'idées sur ce que sont les pratiques, sur le fait que bah il y a un potentiel soignant qui est partagé un peu par toutes et tous en fait, et que c'est pas juste les psychologues et les psychiatres qui ont le monopole du savoir et du savoir-faire sur le soin. Ils installent une base qui est plutôt pas mal. Après, t'as eu des petites différences, mais qui sont pas si petites que ça, par exemple, entre un personnage comme Lucien Bonafé et puis Uri ou d'autres.
C'était des cliniciens.
Ouais, alors ils étaient tous psychiatres, mais il y a un terme qu'utilisait Bonafé, que moi j'aime beaucoup, qui parlait de désaliénisme, c'est-à-dire qu'il fallait pas juste se débarrasser des pratiques hospitalières coercitives et déshumanisantes, mais il fallait aussi déconstruire ou se débarrasser, enfin je sais pas quel terme ils utilisaient à l'époque, en tout cas se désaliéner, c'est-à-dire se défaire du savoir psychiatrique constitué jusqu'à présent. La science psychiatrique, c'est une science récente, hein, ça naît après la Révolution française. Avant, on parle pas de psychiatrie. La science médicale, en tout cas rattachée à la science médicale qui se propose d'étudier le fonctionnement humain, ça naît, après la Révolution française.
Et pour faire cette histoire, peut-être qu'on peut renvoyer directement à Foucault.
Alors, tu peux renvoyer à Foucault, mais j'allais y venir parce que Michel Foucault, justement, il a un peu fait clivage dans toute cette bande-là. Si on prend, je prends les trois figures, là, Toscaïès, Jean Houry et Bonafé. Houry, quand le bouquin de Foucault sort, il n'est pas content du tout de cette critique de la psychiatrie. Il trouve que c'est une opération de destruction, alors que lui a jamais fait, il a toujours fait usage de références psychiatriques anciennes, du 19e au 20e siècle. C'était quelqu'un qui était qui avait une grande culture psychiatrique, qui lisait beaucoup justement les écrits psychiatriques, que ce soit les phénoménologues, les psychanalystes, etc. Où Foucault, en venant analyser les rapports entre savoir et pouvoir, il est venu un peu attaquer tout ça, et notamment la psychanalyse, qui était très chère à Jean-Houry, qui était une des références principales d'Houry et même de Guattari jusque dans les années 70. Guattari se retourne contre la psychanalyse, mais jusque dans les premiers écrits de Guattari, ils sont très influencés par la psychanalyse, et c'est normal, puisque c'était les cadres de pensée de l'époque. Il n'y a pas de critique à faire de ça, mais en tout cas, de souligner certaines différences et certaines manières de voir, où du coup, il y en a un qui dit non, il faut qu'on... pas qu'on se débarrasse de ce savoir-là, mais qu'on en fasse un travail critique sérieux, et l'autre qui dise non, au contraire, c'est une source et c'est une matière, etc., etc. Il y a eu, et notamment le rapport à la psychanalyse des uns et des autres qui a été source de conflits et de différences. Mais là où il y a une autre différence, je trouve, dans la manière dont Lucien Bonafé et arrive un peu après une figure que je trouve intéressante aussi, qui est celle de Franco Basaglia en Italie, qui lui dit l'hôpital, on pourra pas le sauver, on le détruit. Ouais. On le ferme. Là où eux, c'est un mouvement de réforme de l'hôpital. Et après, plusieurs travaux critiques d'un côté et de l'autre, en disant bah oui, mais en fermant les hôpitaux, les gens vont se retrouver à la rue. Ce qui est pas totalement faux. En fonction des différences, les États pauvres ont pas créé des services de santé mentale comme à Trieste. Donc le modèle de Trieste fait modèle de santé communautaire et fait référence maintenant pour beaucoup beaucoup de gens. Mais dans le sud de l'Italie ou dans nos États italiens, il y a pas ça. Surtout avec des gens à la rue, ou suicidés, ou sous les ponts, ou en prison. Ce qui est un peu la critique qu'on fait au virage capitaliste actuel, où du coup l'hôpital ferme. Ok, on fait une critique de l'hôpital, mais quid, qu'est-ce qui vient faire fonction d'accueil et de lieu d'hospitalité pour remplacer ce que pouvait être l'hôpital, toute critique qu'on puisse lui faire.
Parce que l'hôpital, lui, il était critiqué, si tu me complèteras, corrigeras, mais je pense que l'hôpital était critiqué parce que on avait créé à une période des asiles, des endroits où on allait plus ou moins enfermer les aliénés.
Ouais.
Et ces endroits, ils étaient
comme des camps de concentration. Et des pratiques déshumanisantes, coercitives.
Et à ce moment, à Salpêtrière, il y a cette image très célèbre.
L'image de Pinel, ouais.
Et c'est le moment où on se dit, ok.
Pinel est un infirmier, parce qu'on a réhabilité la figure de l'infirmier d'un gars qui était à côté de lui, tout ça. Il libère les chaînes, etc. Mais en même temps, qui fonde aussi la naissance d'un savoir sur ces personnes-là, qui est le savoir psychiatrique. À la fois une figure émancipatrice, enfin, en tout cas, qui peut être présentée comme une figure émancipatrice, et en même temps, la naissance d'un savoir qu'on peut un peu critiquer dans tous les sens, ou relativiser dans tous les sens.
Et donc, à Trieste, ils ont décidé de fermer les hôpitaux.
Ouais, de créer des services, en tout cas, en vie. Et ça se rapproche un peu, c'est pour ça que je voulais revenir à la figure de Desbonnet. Basaglia, il y a eu quelques échanges, hein, ils se connaissaient l'un l'autre. L'idée du secteur ou de l'invention du secteur, c'était ça, c'était de sortir de la logique hospitalière et du coup de créer dans la cité, dans l'espace social, des petits lieux où les gens pouvaient venir consulter en journée sans forcément être hospitalisés, et une multiplicité de lieux mais qui était à proximité, où on mettait pas la personne justement à l'écart comme tu viens de le dire, dans la société. Ça a nécessité des réflexions, du coup qu'est-ce qu'on fait sur les questions de logement, sur les questions d'habitat, sur les questions de revenus, sur les questions très matérielles d'existence des personnes. La personne elle était dans le monde, mais avec certaines difficultés qu'elle pouvait rencontrer par rapport au travail, par rapport au logement, par rapport aux autres, par rapport au fait de faire lien.
Ouais, toi, tu t'es nourri de toutes ces figures-là, et du coup...
Ouais, moi, je mange à tous les râteliers. J'ai pas de, comment dire, j'ai pas de chapelle. J'ai lu les critiques des uns et des autres à l'endroit des uns et des autres. Souvent, je trouve que c'est un peu de mauvaise foi, ou en tout cas que c'est pas reconnaître le travail qui a été fait, soit en Italie, soit en France, ou une forme d'intelligence au travail forte. Du coup, je me sens pas obligé de choisir entre telle ou telle manière de voir les choses. Tout m'intéresse et ça fait partie d'une histoire commune surtout. Je trouve ça, faut parler de tout ça en même temps.
Est-ce que toi, t'as considéré à un moment construire une pratique clinique qui soit basée sur cette compréhension ou cette étude-là ?
Eh ben, moi, les références cliniques du coup qui m'intéressent le plus ou qui m'ont le plus intéressé, c'est ce que racontait Guattari. Pas considérer les choses comme figées, mais plutôt comme des processus. Un des grands débats de l'anti-Oedipe, c'est de sortir du côté figé de la structure, c'est-à-dire t'es soit un schizophrène, t'es soit un paranoïaque, t'es soit un névrosé, etc., etc. Et eux le disent pas, mais moi ça m'a amené à penser un peu ça, c'est-à-dire qu'on est tous tout, on est tous traversés par tout, et à un moment c'est à quel niveau tu mets les potards de chaque mouvement pulsionnel. À l'abord, ils en parlaient pas mal. Une des sources d'influence de Toscaïès et de Houri, un gars qui s'appelait Zondi, et surtout un philosophe, enfin, en tout cas un praticien belge, qui s'appelait Scott, Jacques Scott, qui reprenait le Zondi en l'actualisant d'une certaine manière. Et lui, il parlait de ça, il parlait de danse pulsionnelle, en fait. Et donc, du coup, quand tu regardes une personne ou les mouvements qui traversent une personne pulsionnelle, eh ben, il considère l'ensemble des mouvements psychiques existants. Il va pas se figer sur, ah bah, lui, c'est un névrosé, lui, c'est un obsessionnel, lui. Et à la fac, j'entendais beaucoup parler de cette manière-là, un peu un schizophrène, un obsessionnel, comme s'il était enfermé dans une seule forme de mouvement pulsionnel, alors qu'on s'aperçoit que la richesse du fonctionnement humain est pour chaque individu, c'est qu'il est traversé partout et que du coup il y a des danses entre chaque mouvement, entre la parano et la schizo, entre l'obsession et l'hystérie, entre tu vois, avec différentes formes et en fait toutes ces pulsions elles dansent en nous quoi d'une certaine manière. Et donc cette manière de voir là les choses, moi en tout cas, enfin si on peut parler de d'intérêt clinique, c'est à cet endroit-là que j'irais me positionner.
Est-ce que tu dirais que ça structure une critique de la psychiatrie directement pour toi ou...
Eh ben, c'est un peu ce que je commençais à dire avec Bonafé, c'est que tu vois, quand on parle d'antipsychiatrie, en tout cas de critique de la psychiatrie asilaire ou des pratiques coercitives ou de ce qu'il y a de négatif dans la psychiatrie en tant que pratique ou en tant que savoir. Hein, je précise les deux parce que c'est bien aussi de dire que c'est un dispositif de savoir aussi et que à la Foucault un petit peu. Les gens de la psychothérapie institutionnelle souvent ils disent non mais nous on veut pas être mis dans le même paquet que les antipsychiatres anglais, Lange, Cooper, Esterton, qui avaient une vision de la folie qui était assez en tout cas de la folie de la schizophrénie avec un parti pris antimédicamenteux. Ça, la question du médicament dans les années 50, elle est venue transformer le champ de la psychiatrie et les gens ont été obligés de se positionner par rapport à ça. Ou des Italiens. Par exemple, si on prend les grandes figures européennes de l'antipsychiatrie. Donc, eux insistent plutôt sur les différences que sur ce qui les rapproche, tu vois. Donc, moi, je te disais, tout m'a intéressé. Autant les Anglais que les Français, que les Italiens, que les Belges. Les Belges, ils sont très forts aussi. Tu vois, Scott, et puis après, on parlera peut-être des lieux qui m'ont marqué, que j'ai rencontré là ces dernières années. Mais, enfin, en tout cas, je pourrais pas dire que quelqu'un qui se réclame de la board ou de la psychothérapie institutionnelle se définit comme un antipsychiatre. Puisque du coup, effectivement, il y a toujours ce côté assumé du savoir psychiatrique et d'un savoir psychiatrique du 19e et du 20e siècle qui influence les pratiques.
Et ce que je sais de toi, c'est que du coup, t'es le chanteur de Justine.
Ouais, j'étais, c'est fini. Le groupe n'existe plus.
Et donc ça, c'est... Enfin, dans ce que je sais de toi, c'est que c'est une des manières dont t'as essayé de partager ce savoir. Est-ce qu'il y a d'autres manières?
Non, il n'y a pas grand-chose en termes de publication. On avait fait un petit bouquin là, qui parlait des auteurs que j'aimais bien avec le troisième album, qui s'appelle 11 joueurs. Je sais pas s'il m'en reste, après je regarde. On l'avait édité, tu vois, on le filait avec les gens qui précommandaient, qui présentaient un peu les différents auteurs qui avaient servi à... qui avaient influencé les textes.
Parce que donc il y a des textes
directement référencés, ouais.
Enfin, tu veux dire un truc
ou... Ben ouais, il y a des textes, clairement, il y a deux textes qui sont... qui s'appelle Toscaïès et Fanon, parle de Toscaïès et de Fanon, et après t'as des textes qui sont influencés par effectivement le frangin de Jean Houry, la Fernand Houry, il y a un texte qui s'appelle Les mots tristes, il y a des bouquins,
il y a un texte sur Élisée Reclus,
ouais, il y a un texte sur Élisée Reclus, il y a un texte sur Guattari qui s'appelle Micropolitique du fascisme.
Ouais.
Enfin, à partir des écrits de Guattari. Accident numéro 7, globalement, il est gouverné par Deleuze et Guattari, puisque j'écris mon mémoire au même moment que l'album. Et après, ça va être Rancière, Agamben, Zizek, les influences principales, Foucault. Ouais.
Donc tu disais qu'il y avait un autre groupe de punk nantais qui avait déjà cette pratique-là.
Ouais, qui avait beaucoup de références littéraires. Ouais. Ouais.
Parce que il y a pas très longtemps, j'ai traduit un petit zine qui a été écrit par Frix qui s'appelle Une folle histoire de l'antipsychiatrie, et l'autrice fait un lien entre le mouvement punk et l'antipsychiatrie. Mmh. Elle parle des berruyers noirs. Il y a ce texte qui s'appelle Pavillon 36 ouais. et ouais. qui est vachement important. Et en fait, j'en parlais avec une amie à moi. On a un peu le même parcours, c'est-à-dire que de la psychiatrisation, il y a une forme d'exclusion et en fait, trouver du soutien. Et c'est vrai dans les squats, enfin donc des punks en fait. Ce lien-là, il m'intéresse.
Ce qui va séduire dans le punk, dans l'économie punk, que ce soit en tant que groupe ou en tant que qu'auditeur, c'est avant tout quand même de la musique. Donc j'irai pas jusqu'à prétendre que le punk. Après, il y en a qui envoient des messages, et les messages s'écoutent, et l'auditeur écoute, et s'il ouais. a envie d'aller voir plus loin, ou même si pendant le concert, il y en a qui posent des tables avec de la doc, avec des bouquins, parfois. Mais, j'irai pas jusqu'à associer directement que chaque punk, traîne derrière lui, une philosophie antipsychiatrique et révolutionnaire. Ce serait un peu aller vite en besogne, à mon avis, mais en tout cas, il y a quelque chose de, à la fois de la débrouille, de, enfin, dans l'idée de base, de, il n'y a pas besoin d'avoir, une certaine technicité pour monter un groupe et faire des choses, qui rejoint, moi, je trouve, les mouvements actuels et ça peut rejoindre un peu ce qui est en train de se créer avec la plaine où en fait on dit aux gens mais vous n'avez pas besoin d'avoir fait des études bac plus 5 pour vous sentir concerné par la question mm-hmm. et pour y aller et pour faire des trucs. Et je dirais que c'est ce point-là peut-être qui va rejoindre le DIY, quoi, le do-it-yourself ouais. et des pratiques alternatives, que ce soit en psychiatrie ou dans d'autres, pour d'autres sujets. Hein.
Il y a un problème, il faut qu'on trouve des ouais, solutions et ouais. du coup on se dit tiens viens on le fait.
Ouais, pas besoin d'attendre le Messie pour faire des trucs, quoi, pour faire des choses, pour proposer des choses intéressantes. Ouais.
La création de Justine, c'était quand?
C'était un truc d'adolescent, hein. On avait 15-16 ans, je dirais 80... Non, 2002. En 2002, on avait d'autres groupes avant, mais qui s'appelaient pas Justine. Et après, le nom Justine, il arrive en 2002, ouais. Mais au début, il y avait pas une grosse activité, hein.
Et une note des formes, enfin du coup j'ai envie de faire une transition, une note des formes que ça a pris ton engagement sur la psychiatrie, c'est la trame, c'est un autre
problème.
Ouais. Tu veux parler un peu de ça?
Bah ouais, avec plaisir, puisque c'est un peu ce qu'a mené nos vies à moi et à Julie aussi, puisque Julie est embarquée là-dedans plus. Enfin on l'a fait ensemble, quoi.
Donc c'est un lieu à Saint-Denis.
Et ben après la Borde, du coup à la Borde on rencontre des gens. Plein de gens, Joris, Christophe, Flore aussi, on discutait pas mal. Avec qui on. Enfin, en tout cas, avec Christophe et Joris et d'autres, je me rappelle à la Borde, on faisait des réunions en disant tiens, ce serait intéressant de se lancer dans l'aventure, enfin, de nous essayer de faire un truc, quoi, mais on savait pas trop quoi. Il y avait déjà des intuitions, par exemple, moi j'aimais bien, on en a pas encore parlé là, on a parlé de Bonafé, de Basaglia, de Fanon, enfin en tout cas c'est des noms qui ont été cités déjà, mais une figure comme celle de Deligny, Fernand Deligny, et les lieux de vie et d'accueil. Et ça on va y venir, puisque du coup la plaine là c'est un projet qui quand même se rapproche de cette manière de voir les choses, qui était quand même autre chose que la grande institution clinique, et si on prend la Borde en point de comparaison, où t'as 200 personnes sur le lieu chaque jour, avec une centaine de lits, enfin un truc assez massif, quoi. Et y a cette histoire de la taille critique des petits lieux, et comment...
La taille critique, c'est combien de personnes il faut?
La taille critique, c'est quelle est la bonne taille, effectivement, ah ouais. D'un groupe pour qu'il y ait une dynamique vraiment émancipatrice, démocratique qui se mette en place, pour que tu sois pas freiné par des contraintes administratives ou institutionnelles qui vont devenir lourdes du fait du grossissement. Et dans cette philosophie-là, en tout cas, dans ce qui a été proposé au niveau des lieux de vie, t'étais pas loin de la famille d'accueil, mais un peu au-dessus, tu vois, il y a des collectifs de 15-20 personnes, tu vois, qui se créaient et qui fonctionnaient en réseau. Tu vois, l'idée de Deligny, c'est de faire une grande cordée, c'est-à-dire plein de petits lieux entre eux. Et là, tu rejoins la logique archipéliste, tu vois, un petit peu qu'elle vend en coupe à l'heure actuelle, avec plein de lieux en réseau.
Donc Deligny, mais Deligny, il travaillait pas sur la question de la folie directement aussi?
Ben Deligny, il est passé au début, il était éducateur dans le nord de la France, et après il est passé par la Borde, il a vécu un peu à la Borde Deligny, et après il s'est installé dans les Cévennes en emmenant avec lui plutôt des enfants autistes. Et ensuite, des gens qui lui orientaient, de la région parisienne ou d'ailleurs.
Et, j'essaie de me rappeler du nom de ce lieu.
Il y a Monoblet.
Ah, Monoblet, voilà, c'est ouais. Ça le nom que j'ai inventé.
Et c'est des lieux qui existent encore. Hein.
Ouais. Je t'ai coupé du coup.
Non, ouais.
Il va dans les Cévennes,
ouais.
À Monoblet.
Et ils vivent de rien, chichement.
Le truc, c'est, leur idée, c'est de vivre... ensemble.
Vivre avec les enfants autistes. Et il prend autour de lui, et là tu rejoins Toscaïès, des gens qui sont pas du tout formés à cette question-là.
Donc ils n'étaient pas ni des travailleurs sociaux, ni des infirmiers.
Ouais, c'est ça. Donc voilà. Il y avait cette idée de faire quelque chose, là, avec les gens qu'on avait rencontrés à la Borde, avec eux. Et puis, moi j'étais quand même attiré par les grandes villes. J'avais envie de voir Paris, quoi. Il y avait quelque chose qui m'attirait là-dedans. Ça me plaisait. Enfin, j'avais un pote qui était à Paname, à chaque fois j'y allais, je fais voir. Et ça m'attirait à fond. Donc, je cherche du taf en région parisienne et de fil en aiguille par la Borde. Il y avait un lien. Donc, ce lien, c'est le lien entre Jean-Houry et Fernand Houry. Jean-Houry, il a travaillé au développement de la psychothérapie institutionnelle et il avait un frangin qui s'appelait Fernand. Sonminé, je crois. Qui lui a travaillé au développement de la pédagogie institutionnelle, de reprendre les pratiques d'éducation populaire de Freinet, toute cette histoire-là, en y ajoutant des méthodes d'analyse de groupe, enfin des choses que tu peux retrouver aussi à la Borde, mais pour les enfants. Et du coup, il fait un gros pavé, pareil, au début des années 60, 70, ça s'appelle la classe coopérative, et il y a une école qui fonctionne entièrement, pas juste au niveau de la classe, mais au niveau de tout de toute l'institution, puisque c'est des enfants qui sont là du lundi au vendredi. Une expérience coopérative, mais à l'échelle d'une école. C'est là-bas que je suis embauché.
Là-bas, c'est à Saint-Denis.
À l'école de la Neuville. Donc
à Neuville, pardon.
Ouais, okay. En Seine-et-Marne.
Ok.
Mais à cette époque-là, j'habite avec Fix, le batteur de Justine, à Paris. Je m'installe à Paris. Et à la fin de l'année, j'ai besoin de me former parce que j'ai passé une année catastrophique en classe avec les enfants. Donc à la fin de l'année, je me dis il faut que j'aille me former à ces outils-là de manière beaucoup plus spécifique pour l'année prochaine.
Donc les outils, l'été. Genre l'enseignement et la pédagogie ou...
Ouais, tu fais classe le matin. Alors après, tu enseignes le français, les maths, etc. etc. Mais t'as aussi un conseil de classe, la possibilité de se plaindre, de critiquer, d'améliorer les outils.
Okay.
Voilà. Et puis surtout de réguler les conflits qu'ils ont entre eux. Parce que du coup, il faut qu'ils apprennent aussi à vivre ensemble et la relation à l'autre. Et donc voilà, tous les dispositifs en fait de la pédagogie Freinet, le Quad 9, la correspondance scolaire, enfin, il y a certains de ces outils-là qui sont rentrés dans l'éducation nationale parce qu'il y a certains profs qui sont intéressés par ces pratiques-là, tu vois. Le fait de donner du sens aux apprentissages, qu'ils soient pas assis le cul sur leur chaise toute la journée. Donc tu fais classe que le matin et l'après-midi, tu es sur des activités sportives, culturelles et politiques. Avec une grande réunion tous les soirs, tous les vendredis après-midi, le conseil d'école, avec des niveaux de responsabilité qui sont acquis, et puis du coup des grands qui viennent parrainer les plus jeunes dans la relation, etc., etc., et un ensemble de responsabilités qui leur sont attribuées en fonction de ce qu'ils sont capables de prendre comme responsabilité, etc.
Quoi. Ok.
Voilà. Et donc hyper intéressant mais épuisant, full time job, je pense 70 heures semaine, tu dors là-bas sur place, tu fais des réunions le soir jusqu'à pas d'heure, enfin bref. Comme le rythme d'un animateur colo, mais toute l'année, quoi.
Mais est-ce que là, on est guidé par la passion ou par le... Qu'est-ce que c'est le moteur ?
Non, je dirais pas la passion parce que je suis pas bon avec les enfants. Je suis pas un bon éducateur. Mon kiff, c'est la relation adulte. Je pense que j'étais en difficulté parce que aussi, je suis pas à l'aise. Je suis pas ni très intéressé ni très doué pour la relation adulte-enfant. Donc, ça m'a mis en difficulté, ouais. Le rapport policier, tu sais, tu dois faire autorité quand t'es un adulte avec un enfant, etc. C'est quelque chose qu'il faut assumer assez fort.
Mais pour faire 70 heures par semaine, il y a quelque chose qui te porte. C'est l'idée du projet, c'est l'idéalisme.
Ouais, ouais. En tout cas, c'est la proposition du travail qui a été faite et puis le sens de ce truc-là. Mais au-delà de l'intérêt de l'école de la Neuville, c'est ce qui me fait rencontrer Julie. Du coup, je te laisserai reboucler avec l'histoire de Julie.
Ouais, et aujourd'hui, ta compagne,
ouais.
Et vous êtes parents tous les deux de trois enfants.
Ouais. Et Julie, à l'époque, elle est institutrice, mais elle se rend compte, mais je la laisserai raconter un peu l'imaginaire qu'elle avait développé autour du sens de, du fait d'être un site. Et de, si elle se disait, s'il y a bien un endroit sur lequel on peut peser sur le monde,
C'est vraiment, l'éducation.
L'éducation et les enfants. Donc elle était partie là-dessus. Et au bout d'un an, elle a rapidement déchanté. Et je te laisserai, je la laisserai développer son analyse.
Okay.
Et donc du coup, elle se forme à ces outils-là aussi. Donc on se forme à Châteaulin en Bretagne pendant 2 semaines, et c'est comme ça qu'on se rencontre.
Quand on se forme, ça veut dire on trouve des contacts par nous-mêmes et on contacte les structures et on y va par curiosité, comme vous aviez fait, comme tu avais fait à la Borde.
Non, là pour le coup, c'était une formation qui était proposée par des organisations de la pédagogie institutionnelle où ils proposent des stages de formation, un peu comme ce qu'a fait Lucie à la Borde, d'une semaine ou deux. Là, c'était 7-8 jours. De se former aux outils de la pédagogie institutionnelle.
Okay.
Comment mener une classe, comment mener des apprentissages, comment organiser un conseil de classe, comment organiser ce qu'ils appellent les ceintures. En fait, ils reprennent le modèle du judo. Tu montes en compétences. Okay. En fait, le principe du judo, c'est que tout le monde peut s'entraîner sur le même tatami, mais avec des degrés de compétences différents. Et donc, on rencontre Julie, et Julie vient travailler à la Neuville. On travaille ensemble pendant 2 ans à la Neuville. Et après, on décide justement de se lancer dans la création d'un projet d'accueil. Mais à cette époque-là, on hésite. On regarde une carte de France. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on s'installe? Est-ce qu'on quitte la Neuville? Est-ce qu'on va en Bretagne? Est-ce qu'on va à Marseille? Est-ce qu'on reste en région parisienne? Et puis on décide de rester en région parisienne, de s'installer en banlieue à Aubervilliers et de passer 6 mois. Ça a été un chouette moment à enquêter sur les dispositifs d'alternatives à la psychiatrie qui existent sur Paris et sur la banlieue, sur l'approche banlieue.
Et donc à ce moment-là, il y en a beaucoup, parce que on se dit tout le temps en fait des dispositifs, il y en a pas ou peu dans ce territoire-là. Il y avait déjà ce qui existait.
Et ben en fait, on se dit tout de suite, tiens, qu'est-ce qui nous intéresse comme forme, et surtout au sein de quelle forme on pourrait. Ou à partir de quelle forme on pourrait imaginer une proposition intéressante sur la question de la personne en souffrance psy. Et donc c'est un peu ce que disait Julie tout à l'heure. On regarde ce qui existe au niveau des clubs thérapeutiques. Alors les clubs thérapeutiques, ça c'est une invention spécifique justement de la psychothérapie institutionnelle, c'était l'idée de créer des associations à l'intérieur des établissements hospitaliers pour partager des responsabilités, et c'est l'association, le club, à l'intérieur de l'hôpital qui gérait tout un tas d'activités de l'hôpital. Les ateliers... repas,
donc on enlève
un bar, des activités culturelles, etc.
Okay.
C'est plus l'établissement qui décide, c'est l'établissement qui confie au club la responsabilité d'animation des ateliers, structurant une association loi 1901, est portée par des pensionnaires et des professionnels. Et même, il y avait quand même l'idée de...
Donc c'est un héritage de la Borde directement, plus ou moins.
Voilà. Et donc du coup, on dit, tiens, allez voir les clubs parisiens. C'est intéressant le mot club, parce que l'histoire des clubs, les clubs révolutionnaires, c'est les clubs qui étaient au début de la Révolution française et qui se réunissaient et qui prenaient le nom de club pour avoir des cercles de discussion et de réflexion sur la stratégie à mener pour faire la révolution. Et voilà, donc en tout cas, les clubs, dans le champ de la psychiatrie, voilà, c'est des associations et qui est coportée en termes d'association par des pensionnaires et des professionnels. Mais il y avait l'idée quand même que ça laisse majoritairement une place aux pensionnaires, et que ce soit les pensionnaires qui puissent prendre des responsabilités à l'intérieur de ce club, en termes de composition, d'animation, de discussion, etc., etc. Et le club devenait une forme de contre-pouvoir par rapport à l'établissement. Parce qu'il pouvait avoir des propositions ou des désaccords avec l'organisation de l'établissement.
Et comment est-ce qu'elle se crée la discussion entre le club et l'établissement? Il y a...
Ça va être des espaces d'échange et de discussion sur des propositions qui sont faites par le club.
Okay.
Et l'établissement va venir valider ou pas. Mais en tout cas, c'était...
Donc il y a un rapport de force.
Ouais, il y a cette dimension-là, en tout cas de contre-pouvoir, et puis surtout de possibilité de donner aux personnes de prendre des responsabilités, et puis de devenir décisionnaire sur certaines choses. Et donc il s'avère qu'en 2010, il y a certains clubs qui se sont plus ou moins autonomisés de l'hôpital, et c'est là qu'on découvre l'existence des groupes d'entraide mutuelle. Pareil, association loi 1901, association d'usagers de la psychiatrie, avec un cahier des charges assez spécifique, l'obligation d'avoir une association marraine.
Tu te rappelles dans quel contexte ça a été créé, ça?
Ouais, la loi de 2005, c'est la loi pour l'égalité des chances et l'accès à la citoyenneté des personnes handicapées, et qui vient, par exemple, reconnaître la spécificité du handicap psychique. avant, on parlait de handicap mental et on mettait dans le même panier les problématiques déficitaires de gens qui étaient tout aussi intelligents que nous, si c'était plus. En tout cas, c'était pas un problème cognitif. Et il n'y avait pas de différenciation. C'est venu aussi créer des dispositifs spécifiques à cette reconnaissance de handicap psychique, à savoir les services d'accompagnement à la vie sociale, les SAMSA, la refonte de la NDPH et les groupes d'entraide mutuelle. Et là, on est allé un peu vite sur l'essor du mouvement des usagers en psychiatrie, parce que c'est lié aussi à une histoire longue, tu vois, qui émerge à mon sens à partir des années 70 et qui prend de la force dans les années 80 avec d'autres champs. Ça fait le fil, et notamment avec un truc qui nous a pas mal intéressé avec Lilian, qui est un pote qui bosse toujours à la trappe. Et lui, il a fait un écrit, il a fait son mémoire de, il a fait un mémoire là-dessus. Il parle à la fois de Fanon et il parle à la fois de ce mouvement-là des années 70 qui s'appelle le mouvement d'alternative à la psychiatrie. Et qui était une proposition de fédérer, tu vois, un peu les Belges, les Italiens, les Français, parce qu'en fait, tu avais eu de la philosophie donc du secteur, de la psychiatrie de secteur qui faisait un peu son premier bilan critique. Donc la loi sur le secteur, tu vois, sortir de la logique asilaire, créer dans la cité des espaces de continuité des soins, et dont la porte d'entrée principale est le centre médico-psychologique, qui existe toujours à l'heure actuelle, faisait déjà sa première critique dans les années 70. Et à côté de ça, la naissance de ce qu'on pourrait appeler le mouvement critique par les usagers eux-mêmes, qui commençait à se constituer, tu vois, avec le groupe Information Asile, le GIA, ou des assos comme ça, qui mélangeait à la fois des personnes concernées et des professionnels.
Là, pour le coup, quand on parle du GIA, on parle de personnes qui sont assez radicalement opposées à la psychiatrie et qui se constituent, ouais, pour faire exister le mouvement de l'antipsychiatrie, en gros.
Puis des mouvements moins institutionnels, par exemple, il y avait la revue Marge. L'idée, c'était de donner la parole aux tox, aux prisonniers, aux taulards, aux personnes psychiatrisées, etc. Ce qu'on peut retrouver dans différents fanzines à l'heure actuelle qui existent, et puis t'en connais à mon avis un certain nombre. Mais
il y a Soin Soin, peut-être on parle de Soin Soin.
Ouais, on parlera de Soin Soin après, ouais. Mm. Mais du coup, Marche, c'est ça. C'est les premiers fanzines, tu vois, qui sortent là-dessus et qui donnent la parole et qui donnent une parole nouvelle. Et avec des gens qui veulent se défaire de leurs assignations psychiatriques qui leur est donnée par le corps médical. Et qui veulent aussi proposer, enfin, critiquer, mais aussi proposer d'autres formes nouvelles de soins ou de manières de faire les choses, et puis commencer à réfléchir à des dynamiques d'entraide possibles entre personnes concernées, etc., etc. Et puis après, dans les années 80, t'as quand même tout l'essor de mouvements critiques à la fois des savoirs scientifiques qui dépassent largement le champ de la psychiatrie. Tu vois, l'exemple qui peut venir en tête ou qu'on cite souvent, c'est AIDS, les usagers du SIDA, qui dit bah ok, en fait
ça va pas du tout,
ouais, vous faites n'importe quoi, ouais. On va se documenter, on va se renseigner, s'informer, on va s'auto-éduquer et on va s'émanciper de votre manière de voir les choses et de votre manière de nous soigner.
Il y a une personne importante dans ce mouvement-là, c'est Judith Chamberlain, qui a écrit ce premier bouquin qui s'appelle On Our Own, ça veut dire par nos propres moyens, ouais, et qui est le premier témoignage de personnes psychiatrisées et de son usage de la psychiatrie
aux États-Unis.
Et enfin, donc cette personne, elle est décédée en 2010 après 40 ans ou plus d'activisme sur ce, ouais, sujet-là. Et aujourd'hui, on l'a définie comme une héroïne du mouvement des droits civiques, pour dire qu'il y a eu une période où l'antipsychiatrie, elle tenait aussi cette place-là.
Et tu vois, ça a été des batailles juridiques, institutionnelles, pour aller vers de l'acquisition de droits nouveaux. Et je prends la loi de 2005, mais les institutions, à un moment, ont été obligées de faire avec. Et tous ces mouvements de contestation, de demande, de rien sur nous, sans nous, etc., etc., bah, ça s'est fait progressivement entendre, ça s'est mis progressivement à résonner dans les institutions, en disant bah ouais, il faut qu'on fasse quelque chose, on peut plus fermer les yeux en disant vos gueules, c'est nous qu'on dit comment qu'on fait, quoi. Et donc ça a quand même eu des effets tout le long des années 80, 2000, 2010, et l'histoire des groupes d'entraide mutuelle et de la trame est liée à ça. C'est pour ça que c'était pas mal de refaire le pont. Et à côté de ça, le réseau alternatif à la psychiatrie, ça a pas duré longtemps, mais ça a été le point de rencontre, par exemple, entre une personne comme Guattari et un Belge qui s'appelait Moni Elkheim, qui naît plutôt de la systémie, l'idée des pratiques en réseau. C'est-à-dire que la question de la souffrance psychique de la personne, c'est pas une question individuelle. Ça n'enlève rien à l'intérêt que peut avoir des propositions de « je vais me soigner individuellement et je suis un individu et j'ai mes problèmes perso, ouais. ». Voilà. Mais lui, sa proposition, c'était de mettre autour de la table, autour d'une problématique, même si c'est une personne qui en souffre, d'abord la famille, puisque au début il était intéressé par ces questions de systémie familiale, mais rapidement il a élargi la question du problème à des questions sociales et politiques. Il bossait dans le Bronx, l'idée c'était d'organiser aussi des communautés qui partageaient des problèmes communs, un peu comme ce que faisait Alinsky à sa manière, mais sur les questions psychopatho, il s'est dit en fait il faut qu'on élargisse la question de la systémie, c'est-à-dire de s'intéresser au lien entre les gens, dans la souffrance que ça peut générer chez une personne, voire chez plusieurs personnes, et de mettre autour de la table pour en parler, pas que la famille, mais les amis, les voisins, etc.
Il y a un truc important qui porte ce mouvement-là aujourd'hui, c'est l'open dialogue, non?
C'est voilà.
Les Finlandais.
C'est ça.
Qui disent, en gros, quand une personne a une crise, il faut essayer de sortir du rapport hiérarchique entre le médecin et le patient. Du coup, on introduit, d'une part, dans la conversation, un modèle dialectique qui permet de reformuler ce que dit le patient, ce que dit le médecin, pour être sûr que tout le monde comprenne correctement, mais aussi d'intégrer les amis, la famille, les proches, au moment où naît la crise, pour pouvoir faire en sorte, bah, d'une part, que tout le monde suive, c'est-à-dire j'ai commencé ma crise, et quand j'en sors, en fait, tout le monde a compris, parce que tout le monde a suivi le film, en fait, et c'est pas le film, il m'appartient pas tout seul. Et en plus, on sort du rapport de hiérarchie et du coup, on essaie de limiter le degré de violence qui est exercé.
En plus, ils reprennent un terme qui était vachement utilisé par les gens à la board aussi, de polyphonie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une voix qui est plus forte qu'une autre. Et justement, c'est l'hétérogénéité et la multiplicité de ces voix qui va avoir un intérêt pour la personne. Pour moi, l'open dialogue, c'est la suite logique de ce qu'on vient de se raconter là, où tu vois, la question des pratiques en réseau, quand El Caïm ou Guattari, dans les années 70, ils s'intéressent aux pratiques en réseau, ils font émerger la figure d'un thérapeute américain qui s'appelle Speck, et du coup, qui réunit pas tout le village ou tout le quartier autour d'une problématique individuelle de psychopatho, mais il dit, invite qui tu veux à cette grande réunion dans la maison, et tu te retrouves à une espèce de grande réunion à 20-30 personnes chez la personne concernée, et tout le monde donne son point de vue. Ouais, c'est vrai que depuis 3-4 jours, je trouvais que t'allais pas bien, je m'inquiétais, et exprimer, et puis du coup, il propose un cadre, hein. Et pour moi, le dialogue ouvert est la suite de ça. Et ça, pour le coup, c'est un truc, si on arrivait à mettre en place, tu vois, des dispositifs comme ça, de manière fine et bien pensée,
ouais, à mon avis, parce que moi, c'est le sentiment que c'est ça qui se joue. En fait, si on parle d'auto-organisation pour les soins en santé mentale, en fait, ça commence par des questions du genre,
pratique,
ça va? Ça va vraiment? Genre, est-ce que je peux te poser la question de, qu'est-ce que tu traverses? Est-ce que tu peux m'en parler en confiance? Est-ce que je suis capable de le recevoir?
Ouais.
Mais du coup, en fait, d'être attentif les uns les unes aux autres.
Ouais. Mais là, on parle de dispositifs à plusieurs. C'est pas juste un échange à deux ou à trois où t'as une personne qui s'enquérit de l'état de santé d'une autre. C'est carrément, il y a un problème qui est identifié et je m'autorise à produire une demande. J'appelle un dispositif particulier. Là, le dialogue ouvert en Finlande, c'est des équipes de psychiatrie qui sont disponibles pour ça. Mais ça peut prendre d'autres formes, hein. C'est pas forcément aux professionnels de le faire.
Il y a un réseau dans le Limousin.
Ouais.
Ça s'appelle
le réseau Psy-Psy, ouais.
Psy-Psy. Et eux, ils ont plus ou moins essayé de structurer ce truc. Il y a un petit site qui en parle d'ailleurs.
Mais sans citer ces références-là, tu vois. C'est intéressant du coup parce que quand t'essayes de cartographier un petit peu ce qui existe sur le territoire en termes de pratiques qui peuvent être intéressantes ou inspirantes, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont assez proches les unes des autres et qu'il y a des montages qui se font et des branchements qui peuvent se faire assez facilement, quoi. Mais voilà pour l'essor du mouvement des usagers et sur leur institutionnalisation. C'est ça que je mets en avant là, c'est que du coup les pouvoirs publics, pour le meilleur comme pour le pire, se sont appropriés cette manière de parler, tu vois, la logique du rétablissement maintenant, dont on entend beaucoup parler, et qui va faire l'objet de financement, de crédits, de dispositifs innovants, etc.
Est-ce que tu as une idée de comment il s'est fait le pont entre... Est-ce que c'est juste les pouvoirs publics qui ont une oreille et qui disent « Ok, en fait, on peut plus l'éviter » ou est-ce qu'il y a... c'est sûr d'individualiser, mais est-ce qu'il y a des figures qui font le pont?
Ouais, je pense qu'il y a des rencontres qui se font entre des gens qui sont décisionnaires, en tout cas sur le vote de texte de loi, ou qui eux-mêmes, du coup, par l'évolution des représentations, des mentalités, du coup, font des propositions qui vont dans ce sens-là. Et puis, et comme tu dis, le fait qu'à un moment, tu prenais l'exemple de Chamberlain, du mouvement pour les droits civiques, à un moment, ça gueule tellement fort que ça devient un problème de société. Et du coup, il y a négociation autour de ce problème. Que ce soit par la répression, ou que ce soit par l'acceptation et des propositions qui vont dans le sens du mouvement des droits civiques. Mais quand on parlait de la loi de 2005, justement, qui fait émerger les GEM, pour moi, c'est la suite logique de toute cette histoire-là.
Donc, la trame.
Et donc voilà, on arrive à Aubervilliers et...
Mmh. Et voilà, ainsi s'achève le
la
chapitre.
La suite des parcours de Julie et Alex, la création de la trame, ce lieu d'accueil, d'orientation et de soutien dans la communauté destiné à des personnes en souffrance psychique à Saint-Denis, puis la décision de venir s'installer en Bretagne pour initier un projet de lieu de vie et d'accueil à la campagne qui se concrétise ici à Bolbrun, sont discutés dans la suite des entretiens et sont l'objet des épisodes suivants. Des entretiens réalisés par Clément.
Et donc, merci à Clément pour cette interview donc du chapitre 1 de l'entretien de Bolbrun, Arte Radio, Think Insane. Et pour dire aussi que c'est l'association La Plaine qui a pour vision la perspective de développement d'une santé mentale dans la communauté, prenant en compte les déterminants sociaux, professionnels, administratifs, environnementaux et les différents rapports de domination dans l'accueil et l'accompagnement de la souffrance psychique, accès aux droits, aux soins et la question des inégalités et des violences symboliques, sociales et économiques, l'accueil inconditionnel comme garant d'un accès à tous et toutes, et au service de santé mentale, quels que soient ses moyens financiers, son statut social, administratif ou sa nationalité. Alors, pour finir l'émission d'aujourd'hui, j'ai trouvé dans le monde, dans le Manière de voir du monde diplomatique de numéro 203 de octobre-novembre 2025, un petit historique intitulé « Désordre de l'esprit à travers les âges ». Je dis que la deuxième partie, parce qu'on ne va pas remonter jusqu'à la Grèce antique au Moyen-Âge, on va parler du XXe siècle. Déjà, c'est en 2025, le journaliste Albert Londres qui publie dans Le Petit Parisien son enquête chez les fous après une tournée des asiles en France, dont il révèle les terribles conditions de vie. En 1935, le neurologue portugais Egas Moniz réalise la première lobotomie préfrontale. Des centaines d'opérations seront effectuées de l'Europe au Japon, des milliers aux États-Unis sous l'impulsion de Walter Freeman qui pratique la méthode du pic à glace en majorité sur des femmes. 1937, en France, par décret, la dénomination asile d'aliénés est remplacée par celle d'hôpital psychiatrique. Une circulaire relative à la psychiatrie. La prophylaxie propose la généralisation des services ouverts et des dispensaires d'hygiène mentale dans chaque département. 1938, en Italie, les psychiatres Ugo Cerletti et Lucio Bini expérimentent l'électrochoc. Longtemps controversé, l'électroconvulsivothérapie a été réhabilitée dans les années 1980. Penseur du comportementalisme radical, le psychologue américain Bruce Frederick Skinner publie « The Behavior of Organisms » qui écarte l'étude de la conscience au profit de l'analyse des comportements considérés comme déterminés par l'environnement. À la même époque, le psychologue américain Carl Rogers, 1902-1987, développe la théorie de l'approche centrée sur la personne, courant de la psychologie humaniste qui met en œuvre la considération positive et l'empathie. Oui, peut-être qu'au 19e siècle, on peut rappeler aussi qu'au 19e siècle, il y a eu la loi 1838, la loi des aliénés, et qui est signée par Louis-Philippe. Elle impose à chaque département de se doter d'un établissement destiné aux, entre guillemets, malades, et définit leurs conditions d'admission. Ce texte, inspiré par l'aliéniste Jean-Étienne Esquirol, restera en vigueur pendant un siècle et demi. Donc, un fait aussi assez important. Mais nous allons maintenant en 1943. Le psychologue américain Abraham Maslow dévoile sa pyramide des besoins physiologiques de sécurité, d'appartenance, d'estime et d'accomplissement de soi. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, 45 000 personnes meurent de faim dans les asiles en France. En Allemagne, plus de 250 000 malades et patients psychiatriques, vie indigne d'être vécue, sont exterminés. À l'issue du conflit, face au manque de moyens des hôpitaux, la psychiatrie française s'ouvre aux sciences humaines. Des psychiatres questionnent l'utilité de ces structures. Le médecin désaliéniste Lucien Bonafé dénonce l'internement comme une conduite primitive. Son confrère Georges Daumaison défend la psychothérapie institutionnelle. 1948, fondation de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui introduit un chapitre sur les troubles mentaux dans la classification internationale des maladies, CIM. 1949, Moniz, l'inventeur de la lobotomie, est co-lauréat du prix Nobel de médecine. 1950, l'Association mondiale de psychiatrie est fondée, son premier congrès se tient à Paris à l'initiative du psychiatre Henri Hay, au menu psychanalyse, thérapie de choc et psychochirurgie. 1952, Jean Delay et Pierre Deniker découvrent les effets de la chlorpromazine dans le traitement des psychoses. En 1955, les deux médecins de l'hôpital Sainte-Anne désignent la classe de médicaments en train de voir le jour sous le terme neuroleptique, qui prend le nerf. C'est le début de la psychopharmacologie qui va révolutionner la prise en charge des malades. L'American Psychiatric Association, APA, publie son premier Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-1, qui recense moins d'une centaine de troubles. 1957, le psychiatre suisse Roland Kühn découvre le premier antidépresseur, molécule d'imipramine, commercialisé sous le nom de Tofranil. Le psychiatre britannique Humphrey Osmond invente le terme psychédélique en dépit d'expérimentations prometteuses. Les recherches sur les substances hallucinogènes, LSD, mescaline, psilocybine, seront abandonnées dans les années 1960 sous la pression des gouvernements. 1960, en France, une circulaire fonde la sectorisation psychiatrique imposant à chaque département de proposer aux patients une prise en charge diversifiée, soit hospitalier et extra-hospitalier, et de proximité. 1961, Michel Foucault fait entrer les fous dans l'histoire avec sa thèse d'État, Folie et des raisons, histoire de la folie à l'âge classique. L'ouvrage est salué pour sa puissance intellectuelle, bien que certaines de ses interprétations historiques aient été contestées. Apparu au Royaume-Uni, le mouvement de l'antipsychiatrie s'étend au reste du monde occidental, donc toujours en 1961. Ses partisans récusent l'approche et les traitements de la psychiatrie traditionnelle, en particulier sur le plan social, et prônent le développement de communautés thérapeutiques. Année 1970, l'essor des thérapies cognitives et comportementales, TCC, puis plus tard de la thérapie familiale systémique, qui comprend la famille comme un système pouvant dysfonctionner. 1977, le psychiatre américain George Liebman Engel théorise le modèle biopsychosocial. Les facteurs sociaux, psychologiques et biologiques doivent être pris en compte dans le traitement des pathologies mentales. 1978, en Italie, adoption de la Legge Basaglia ou Loi 180 qui prévoit le démantèlement des hôpitaux psychiatriques, une initiative sans équivalent dans le monde. 1980, publication du DSM-3 en rupture avec l'influence psychanalytique des précédents DSM. 1985, en France, une loi confirme la politique de sectorisation psychiatrique engagée dans les années 1960. 1988, aux États-Unis, autorisation de mise sur le marché d'une nouvelle classe de médicaments pour traiter la dépression, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine comme la fluoxétine, entre parenthèses, Prozac. 1990, en France, une nouvelle loi relative au droit et à la protection des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions d'hospitalisation remplace la loi de 1838. Elle veut favoriser la réadaptation des personnes hospitalisées. 2008, à la suite d'un fait divers ayant impliqué un malade schizophrène, le président français Nicolas Sarkozy annonce à Anthony un plan de sécurisation des hôpitaux psychiatriques. 2011, une nouvelle loi régissant les soins sans consentement est promulguée en France. Elle confie au juge des libertés et de la détention le contrôle des hospitalisations sans consentement au-delà de 12 jours. Ça a encore changé aujourd'hui puisque ce n'est plus un juge des libertés et de la détention, mais un juge judiciaire. 2013, la publication du DSM-5, qui répertorie 450 troubles et s'est imposée comme une référence dans l'exercice de la psychiatrie, s'accompagne de nombreuses controverses. 2020, la pandémie de Covid-19 provoque une prise de conscience quant à la dégradation de la santé mentale à travers le monde, en particulier chez les jeunes. 2025, en France, sur fond de crise aiguë du système psychiatrique, le gouvernement consacre la santé mentale grande cause nationale de l'année. Et voilà, donc c'est un petit historique rapide intitulé « Désordre de l'esprit à travers les âges » qu'on peut lire dans « Le manière de voir du monde diplomatique » de octobre-novembre 2025. C'est un numéro hors série consacré à la santé mentale. Et voilà, ainsi se termine l'entonnoir. Allez, une petite chanson pour finir. Ça s'appelle « Encore une fois » et c'est « Les gens du 110 ».
Yes, yes, yes. Le S du serpent qui se faufile et qui se défile, qui sait où il s'enfile. Genre même tu sais comment il donne dans le fil, qui fait grosser le fil. Se donne encore une fois, on finira pas débile sur le cil. Genre même tu sais comment sur microphone, encore une fois je donne dans tous les fils. Dans toutes les villes, toi même tu sais comment encore une fois là-bas il est ne fait que s'enclencher. Toi même tu sais quand je viens déballer mon flow, mon tempo sur le beat, encore une fois c'est yo. Yes, et toi même tu sais, on ne lâche pas. Encore une fois comme je disais, j'étais là dans la ville en train de me déballer, en train de me faufiler, donner ce qu'il fallait pour que je sache où j'allais. Mais je savais pas. Comme je ne savais pas, je ne faisais que des tout petits pas. Toi-même tu sais quand je donne encore une fois, ça lui refait ma foi. Toi-même tu sais je continue comme ça, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais, j'ouvre une porte et qu'est-ce que je vois? Une horde. Toi-même tu sais sur le beat. Yes, oh oh, ah eh, hey. Je viens, j'ouvre la porte. Toi-même tu sais, je me demande ce que je vois, une horde. Hey, je ne sais même pas ce que ce mot signifie en français, mais il me plaît. Ah, même tu sais, je viens, je cause des plaies. Quand même tu sais, s'il te plaît, tu veux ou tu veux pas, c'est pas peu gras. Je sais que tu l'as sur le microphone, encore une fois ma voix. Yeah. Et toi même tu vois, ça ne fait que ça, s'enclencher sur le tempo. Le tempo qui se donne, qui joue des mots. Quand même tu vois, et hier ma foi, tu sais. Yes, I.
Le monde est fait pour les gens qui marchent debout. Vous les paumez, rentrez chez vous si vous pouvez. Sinon faites-vous tout petit pour être poli.
C'est un volet qui bat. C'est une déchirure légère. Sur le drap où naguère tu as posé ton bras. Cependant qu'en bas la rue parle toute seule, quelqu'un vend des mandarines. Une dame bleu marine promène sa filleule. L'absence, la voilà. L'absence d'un enfant, d'un amour. L'absence est la mère. Quand on a dit je t'aime un jour, le silence est le même. C'est une nuit qui tombe, c'est une poésie aussi. Où passaient des colombes un soir de jalousie. Un livre est ouvert, tu as touché cette page. Tu avais fait les sévères au retour d'un grand voyage. Il reste des bagages. l'absence, la voilà, l'absence d'un enfant, d'un amour, l'absence est la mère. Quand on a dit je t'aime un jour, le silence est le même. C'est un volet qui bat, c'est sur un agenda, la croix d'un ancien rendez-vous où l'on se disait vous. Les vases sont vides où l'on mettait des bouquets, et le miroir prend des rides où le passé fait le guet. J'entends le bruit d'un pas, l'absence, la voilà, l'absence d'un enfant, d'un amour, l'absence est la mère. Quand on a dit je t'aime un jour, le silence est le même.